Révolution médicale, René Friedman.
Révolution médicale. Émission en collaboration avec le quotidien du médecin, puisque chaque mardi, une série de questions de médecins sélectionnées par le quotidien du médecin sont reprises à l'antenne et de toute façon diffusées sur le site de notre partenaire.
Pascal Desgranges.
Pascal Desgranges, jeune chef de service de chirurgie vasculaire à l'hôpital Henri Mondeur de Créteil. Nous allons avec vous cheminer, c'est le cas de le dire, dans tous ces vaisseaux du corps et particulièrement les artères, puisque vous êtes consacré comme chirurgien thoracique et cardiovasculaire. Donc en fait, vous occupez de tout ce qui est vaisseau, mais pas du cœur. Bien qu'on dise cardiovasculaire, parce que c'est quand même relié.
C'est ça. Le chirurgien vasculaire, c'est ce que je suis en particulier, s'occupe de tous les vaisseaux, qu'il s'agisse d'artères ou de veines, hormis ceux du cœur. Ce qui fait quand même pas mal, donc du sommet du crâne jusqu'à l'orteil.
Voilà, on va voir un peu un nombre de situations qui peuvent être dramatiques, comme tout ce qui peut toucher les ruptures d'anévrisme de l'aorte, par exemple, ou bien les sténoses des artères carotides qui irriguent le cerveau. Nous allons voir tout ça en détail. Vous êtes professeur des universités depuis 2003. Vous enseignez au Collège de chirurgie vasculaire. Vous avez fait un certain nombre de missions humanitaires, en particulier au Vietnam et à Saint-Domingue. Et en fait, vous êtes passionné par ce métier de chirurgien. Qu'est-ce qui vous a attiré dans cette spécialité très particulière qui tient un peu la vie au bout des doigts? Parce que c'est vrai que, par exemple, les anévrismes de l'aorte, c'est quelque chose de redoutable. Ça peut être, en tous les cas, redoutable. Qu'est-ce qui vous a attiré? Comment vous avez conduit votre cheminement jusqu'à là?
Alors, ce qui m'a attiré, c'est que les vaisseaux, il y en a partout dans l'organisme. Donc j'étais au départ très intéressé par la médecine en général. J'ai adoré faire mes études de médecine, adoré faire mes stages d'internat dans plusieurs spécialités. Et un des dénominateurs communs, c'est la présence d'un vaisseau qui irrigue les organes. Alors pour ce qui est des carotides, vous l'avez dit, le cerveau. Pour ce qui est des artères rénales, c'est les reins. Pour ce qui est des artères des membres inférieurs, c'est l'ensemble du membre inférieur. Et aussi, on s'intéresse aux patients qui ont des problèmes cardiaques, donc patients polyvasculaires. Donc c'est en fait l'ubiquité des vaisseaux dans l'organisme qui m'a intéressé dans cette spécialité.
Est-ce que c'est beau pour vous, une artère?
Oui, c'est beau, une artère. C'est pas seulement un conduit mécanique. On a longtemps parlé même de la trachée artère, est-ce qu'il y a du sang, est-ce qu'il y a de l'air. C'est pas uniquement quelque chose de mécanique, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et une artère qui bat, effectivement, c'est la vie, c'est assez magnifique.
Alors, c'est vrai qu'une des questions se dit, mais comment est-ce qu'on peut travailler chirurgicalement, j'entends, sur une artère, puisque dès qu'on va l'ouvrir, ça va saigner, c'est compliqué de refaire des sutures avec un fil très très fin, parce que ça peut se hinter au travers des points. Donc, vous travaillez avec des petits instruments ou des petits fils, en tous les cas, de diamètre, quand c'est nécessaire. Et puis, vous allez développer, vous allez nous raconter, puisque vous développez toute une chirurgie endocavitaire, c'est-à-dire que vous êtes à l'intérieur même de l'artère pour essayer de réparer les troubles que nous allons revoir en détail. Peut-être juste un mot pour signaler que les maladies cardiovasculaires, qui englobent le cœur bien sûr, tuent à peu près 16 millions de personnes par an dans le monde, et que c'est la première cause de décès. Parmi celles-ci, donc, il y a les problèmes des varices, avec les complications emboliques en particulier, il y a les thromboses dans ces veines qui assurent le retour veineux, mais aussi donc au niveau des artères, et comme on l'a signalé, il y a des organes plus ou moins nobles, ils sont tous capitaux, parce que s'ils ne fonctionnent pas, ça peut faire très mal, hein, y compris les, ce qu'on appelle les artérites des membres inférieurs, où il y a des douleurs importantes. Mais bien sûr, tout ce qui va empêcher l'irrigation du cerveau, ou bien empêcher l'irrigation d'organes, a des conséquences qui peuvent être absolument dramatiques. Première notion, professeur Pascal Desgranges, est-ce que ça survient plus chez les hommes ou chez les femmes ?
Alors, les hommes sont plus aptes à avoir des problèmes vasculaires que les femmes. On va dire que l'homme est soumis à partir de l'âge de 50 ans au risque cardiovasculaire. Ça s'explique donc par il y a un côté sexe et il y a aussi l'augmentation des facteurs de risque qui a trait plus à l'homme que à la femme. La femme, elle est aussi soumise à ces problèmes vasculaires à partir de l'âge de 60 ans. Elle est protégée
un peu plus tard,
elle est protégée
par ses hormones
exactement. Mmh. Mais le risque augmente en fonction de l'âge chez la femme. Donc il y a en gros des choses sur lesquelles on peut pas intervenir, c'est le fait d'être un homme, le fait...
Encore que.
Le fait de prendre de l'âge et une partie certainement d'hérédité.
Oui, parce qu'il y a des familles à complications artérielles.
Oui, clairement, il y a des familles, notamment pour les anévrismes de l'aorte abdominale, il y a une composante génétique. Mais probablement, au niveau des artérites aussi, il y a une composante, il y a une partie génétique.
Mais Pascal Desgranges, qu'est-ce que c'est qu'un anévrisme ? Peut-être, on va expliquer à nos auditeurs, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une artère ? On va rester sur l'artère, et comment elle est composée ?
Alors, une artère, c'est un conduit qui est composé de trois couches, une couche interne qui s'appelle l'intima, une couche moyenne qui s'appelle la média et une couche externe qui s'appelle l'adventice. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que on est soumis, notamment dans nos populations de pays, des pays industrialisés, à une maladie qui s'appelle l'athérome ou l'athérosclérose.
Mais on dit athério ou athérosclérose ?
Alors, il y a un peu tous les termes, mais actuellement, on dit plutôt athérome ou athérosclérose.
C'est la même chose. C'est quoi,
alors ? Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est le dépôt de graisse, puis ensuite de calcaire à l'intérieur des artères. Ça va commencer par une plaque. Donc dès l'âge de 30 ans peuvent apparaître les plaques. Les plaques ensuite vont grossir et entraîner le rétrécissement de l'artère, du vaisseau. Ensuite, ça va arriver...
Ces plaques se mettent où dans la partie médiane ?
Mais dans la partie médiale de l'artère. Donc vont bomber à l'intérieur et vont progressivement empêcher donc le sang de pénétrer jusqu'à l'organe.
Le flux va être réduit.
Le flux va être réduit.
Donc moins d'irrigation de l'organe en question.
Donc on a une première phase qu'on appelle ischémique. Alors quand ça se situe au niveau du cœur, c'est ce qu'on appelle l'angine de poitrine. Quand ça se situe au niveau du cerveau, c'est ce qu'on appelle les accidents ischémiques transitoires. Quand ça se situe au niveau des membres inférieurs, ça s'appelle la claudication intermittente. Le patient est pris d'une crampe qui est passagère. Ensuite, la phase...
Mais c'est une crampe à l'effort.
C'est une crampe à l'effort, effectivement.
Par rapport aux crampes musculaires, il ne faut pas s'inquiéter à chaque fois qu'il y a une crampe. Hein. Mais une crampe à l'effort.
Ensuite, le stade ultime, c'est l'artère qui se bouche complètement. Et là, on est au niveau de la catastrophe. Quand il s'agit de l'artère carotide, avec le cerveau derrière, on a ce qu'on appelle un infarctus cérébral. Avant, on appelait ça un ramollissement cérébral. Du fait que
la conséquence
est un infarctus mou, voilà. Donc on ne parle plus de ramollissement mais d'infarctus cérébral. Au niveau du cœur, c'est l'infarctus cardiaque, et au niveau des membres inférieurs, il s'agit de la gangrène qui aboutit donc à la mort du membre et qui nécessite le recours à l'amputation.
Donc vous faites aussi des amputations ?
On fait malheureusement les amputations
quand c'est nécessaire,
quand on ne peut plus, quand il n'y a plus du tout de recours à la revascularisation, on est obligé. Alors, il y a une autre partie de l'athérome qu'on ne comprend pas, enfin qu'on comprend pas bien, c'est que cette maladie aussi peut dilater les artères. C'est un peu comme Janus. Elle a deux visages. Cette maladie a deux visages. C'est-à-dire qu'on a donc cet athérome dans les artères qui peut entraîner donc de temps en temps des artères qui se comblent, qui s'occlusent et qui entraînent donc des infarctus. Mais par exemple à d'autres endroits de l'organisme comme les aortes, l'athérome va entraîner une dilatation de l'artère.
C'est pas peut-être par fragilisation.
Voilà, on va dire une fragilisation
du muscle qui est dans l'artère.
Oui, c'est bien des cellules musculaires de l'artère, et donc on va avoir ces phénomènes d'anévrisme. Alors, non pas des artères qui se bouchent, mais des artères qui vont progressivement se dilater jusqu'à se rompre et entraîner donc.
Elle s'affine, quoi. La paroi se devient très fine.
Devient très fine jusqu'à comme un ballon de baudruche qu'on gonfle petit à petit. Ensuite, à partir d'un certain diamètre. Il va y avoir une rupture d'anévrisme avec donc la conséquence tragique qui peut être le décès.
Et alors, ces plaques d'athérome qui non seulement obturent ou bien dilatent, je dirais, de l'autre côté, elles peuvent aussi migrer et faire des espèces d'emboles et des bouchons, quoi, qui viennent.
Tout à fait.
Dans
en plus, elles ont la capacité de temps en temps de ne pas s'occlure complètement et d'être sensibles, friables au niveau du flux sanguin. Et effectivement faire une embolie, donc ça peut être une embolie cérébrale ou une embolie au niveau des membres, bien entendu.
Alors, comment est-ce qu'on peut faire le diagnostic de ce risque? Est-ce que on a des moyens, en particulier d'imagerie, qui permettent de détecter en tous les cas l'existence de ces plaques?
Oui, alors on peut déjà, rien que par la clinique, interroger le patient. Donc, il est important de définir si le patient est symptomatique ou asymptomatique.
Donc, ce que vous disiez, par exemple, pour les carotides, c'est un petit accident, on va dire petit accident. C'est un accident, oui, qui s'est pas encore manifesté, mais qui doit alerter. D'un seul coup, on voit pas bien d'un œil, on a un trouble.
Voilà, du mouvement du bras ou de la jambe qui se passe mal, un trouble de l'élocution, manque du mot, ou effectivement.
Alors qu'on comprend ce qu'on veut dire, on n'arrive pas à le dire.
Voilà,
on sait ce qu'on veut dire, on n'arrive pas à le dire.
On peut avoir ça, voire même un trouble de compréhension. Un trouble oculaire, soit un œil qui voit pas, ou soit les deux, ou un problème de pour bouger un membre.
Donc quand ça arrive, on fonce aux urgences.
Ça, on faut foncer aux urgences.
Alors, on est bien d'accord.
Donc on peut aussi pour
ce qui appeler le 15.
Voilà, appeler le SAMU, peut-être dans un premier temps, ou foncer aux urgences si on a la possibilité de le faire. Et pour ce qui est de l'imagerie. On a bénéficié du développement de l'imagerie et on peut vérifier que on a des artères qui sont intactes en faisant un écho Doppler, une échographie Doppler, donc qui nous permet de vérifier.
Donc pas douloureux,
non invasif et pas mauvais pour la santé. Donc l'échodoplérisme, mais qui nécessite un opérateur entraîné, donc en général un angiologue. Hein. Donc, ce sont des médecins qui sont spécialisés dans l'exploration des vaisseaux. Donc, avec ça, on peut quand même avoir un bon screening, c'est-à-dire un bon dépistage de la maladie athéromateuse, qu'il s'agisse au niveau des carotides, au niveau de l'aorte abdominale, dans le thorax, on peut un peu moins, ou au niveau des membres inférieurs.
Mais alors, est-ce que vous conseillerez à tout un chacun, arrivé à un certain âge, puisque vous avez mentionné la survenue plus fréquente chez les âges, de faire cet examen de dépistage?
Alors, effectivement, il a été montré que quand on a un certain âge, quand on a des facteurs de risque, alors là, on va peut-être entrer dans les facteurs de risque. Si on est tabagique, il va falloir fatalement, on va être obligé de parler des facteurs de risque. Si on a un tabagisme, si on a un diabète, si on a une hypercholestérolémie, et puis un certain style de vie comme une sédentarité ou avec un surpoids, il va falloir avoir recours un peu plus fréquemment à cette imagerie par échodoppler pour dépister quelque chose. Donc il a été montré qu'en présence de facteurs de risque d'un certain âge, par exemple les hommes de plus de 65 ans, fumeurs, il est bénéfique d'aller chercher une trace de la maladie athéromateuse chez ces patients.
Et Pascal Desgranges, vous conseillerez quoi? Tous les deux ans, tous les ans, les trois ans?
En l'absence de symptômes, si on n'a pas de claudication, effectivement, tous les 2-3 ans, on peut faire un bilan à un moment donné, à 60-65 ans, on peut faire un bilan de sa maladie athéromateuse.
Donc, on voit bien, déjà, vous avez cité les facteurs, nous reviendrons dessus en fin d'émission sur la prévention, parce que s'il y avait une très bonne prévention, vous n'auriez plus rien à faire. Évidemment, puisqu'il n'y aurait plus de maladies athéromateuses. Et vous, vous agissez sur les conséquences.
Pas loin de la réalité. Oui.
Qu'est-ce que vous avez fait ce matin?
Alors, ce que j'ai fait ce matin, j'ai opéré 4 patients. Donc, 4 patients par des...
Par exemple.
Par exemple, donc 3 patients qui avaient des difficultés à la marche. Et un qui avait tellement de difficultés qu'il avait un ulcère au niveau du pied, donc qui était donc nécessitant des pansements. Et puis un patient qui avait un anévrisme de l'aorte abdominale. Et ces patients, je les ai opérés par méthode endovasculaire.
Donc, on va venir sur les techniques, dans un instant, mais voilà, vous avez fait 4 interventions ce matin dans ce domaine. Vous faites dans votre centre combien de patients à peu près par an?
Après, on fait à peu près 1500 interventions vasculaires par an.
Et il y a plusieurs centres spécialisés dans la région parisienne, pour parler de celle-ci?
Dans la région parisienne, il y a essentiellement, enfin, il y a 4 grands CHU, centres hospitalo-universitaires qui font de la chirurgie vasculaire. Et on va dire, au niveau des centres privés, une 15aine de centres privés qui font de la chirurgie vasculaire.
Donc on va voir après votre organisation, hein, parce que ça peut, ce genre de complication peut arriver 24 heures sur 24, donc il faut une certaine organisation, nous allons voir. Mais peut-être tout d'abord, j'aimerais, Pascal Desgranges, que vous parliez un peu de l'histoire, parce que comment est-ce qu'on est venu à opérer les artères? Alors en particulier, il y en a peut-être celui qui est assez connu, mais pas toujours pour les bonnes choses. Je parle d'Alexis Carrel, puisque vous savez que c'était malheureusement une idéologie que nous contestons, qui était une idéologie, je dirais, eugéniste au sens dur du terme. Et par contre, il faut bien reconnaître qu'il a eu le prix Nobel en 1902, comme quoi les hommes sont complexes, parce qu'il a su élargir, je crois, un certain nombre d'artères. Enfin, en tous les cas, il s'est préoccupé de cette chirurgie. Alors, il faut dire que votre métier a pris son essor aussi parce que on a su faire des transfusions sanguines, on a su donner des antibiotiques. On a su traiter pour empêcher les coagulations, donc les emboles ou les complications liées à cela par l'héparine. Vous avez donc effectivement, comme toute la médecine, hein, bénéficié des autres spécialités avoisinantes autour de vous. Alors, c'est vrai que j'avais lu que Ambroise Paré, le célèbre chirurgien, il savait pas bien disséquer les artères à ce moment-là, et lui, ça, il brûlait, il cautérisait, hein, pour essayer de ça coagule et que ça saigne plus en dessous, ou en tous les cas, pour essayer de il a commencé à lier progressivement les vaisseaux. Alors. Parlons point par point, parce que c'est quand même des chirurgies qui touchent toutes les artères, mais qui sont quand même différentes en fonction de la localisation. Quelque chose qui peut être pas très connu, c'est donc les carotides. On démarre quoi, à la fin du siècle, au milieu du siècle dernier, à toucher les carotides?
Exactement. Juste pour revenir, effectivement, il y a un bon... entre Alexis Carrel et la chirurgie vasculaire. Alexis Carrel, comme vous l'avez dit, c'est début du siècle dernier. C'est le premier à avoir osé rabouter des vaisseaux entre eux. Et en fait, il était de Lyon et il avait pris les conseils auprès d'une couturière, une amie de sa mère qui était couturière.
Les héritiers des Canuts.
Voilà, exactement. Sauf que, et vous en savez quelque chose, Monsieur Friedman, c'est que quand on a une idée géniale dans notre domaine, on vous croit pas. Et longtemps, la communauté, on va dire, chirurgicale, n'a jamais cru Alexis Carrel. Et il faut aller au milieu des années 50, donc 48, un des premiers pontages, 52, c'est le professeur Dubost en France qui fait une intervention sur un anévrisme, pour que la communauté chirurgicale dise « mais Carrel, il avait probablement raison dans ses raboutages de vaisseaux ». Et c'est probable, vous l'avez dit, il y a toute une partie de sa vie qui n'est pas à mettre en valeur, mais cette partie-là de chirurgien vasculaire, elle doit être mise en avant. Et donc, en fait, on arrive ensuite au niveau des années 50. Effectivement, là aussi, c'est un Américain, Iscott, en 48, qui s'occupe d'opérer les carotides. Donc, qu'est-ce qui se passe avec les accidents vasculaires cérébraux? Donc, les accidents vasculaires cérébraux peuvent être dus à deux causes, soit une artère qui se rompt dans le cerveau, donc ça donne une hémorragie cérébrale. Alors ça, c'est dans 15% des cas. Mais le plus souvent, c'est une artère qui se bouche et donc qui met en péril le cerveau qui est derrière. Alors l'artère qui se bouche, ça peut être une embolie venant du cœur et qui vient se boucher une artère carotide, ou alors une plaque d'athérome qui se détache ou qui thrombose, on dit in situ, au niveau de la partie latérale du cou. Et c'est là que le chirurgien vasculaire a son travail, c'est-à-dire qu'il faut ensuite essayer d'opérer la carotide qui vient de parler, hein, qui vient d'entraîner donc un accident vasculaire sous la forme en général transitoire, et donc il faut opérer. Alors vous avez dit tout à l'heure, comment vous faites pour pas avoir de sang? Effectivement, on craint le sang autant que tout un chacun, mais justement, on va clamper les vaisseaux, c'est-à-dire qu'en amont et en aval de la lésion, on va mettre des clans et on va en fait.
Et ça détruit pas la partie clampée?
Non. Alors,
parce qu'il y a des petits vaisseaux quand même.
Il faut quand même pas rester trop longtemps. C'est-à-dire qu'on donne, vous l'avez dit, de l'héparine pour fluidifier le sang, mais on s'autorise une ischémie qui va être brève, 15-20 minutes maximum.
Donc c'est le temps qui vous est imparti pour faire votre job.
France Culture, Révolution Médicale, René Friedman.
Donc avec vous, Pascal Desgranges, nous sommes dans le geste chirurgical sur ces artères. Donc vous avez clampé l'artère et vous avez donc un temps d'ischémie où le sang ne circule pas, ce qui vous permet de l'ouvrir si besoin était, ou en tous les cas de faire le travail que vous avez à faire sur celle-ci. Vous avez parlé des progrès qui arrivaient donc il y a une cinquantaine d'années avec certaines prothèses artérielles. On essaye de remplacer ou de court-circuiter le passage avec des greffons veineux ou avec du tissu synthétique.
Alors, effectivement, l'histoire a commencé par l'utilisation de l'homme lui-même comme réservoir de conduit. Alors, on a utilisé, pour ce qui concerne l'aorte et les anévrismes, on a remplacé par des aortes de cadavres. C'est ce qu'avait fait le professeur Dubost en 1952. Il avait prélevé un patient qui était décédé et il avait remplacé. Le malade a survécu 8 ans à cette intervention.
Une greffe d'aorte.
Alors le problème, c'est que on peut le faire, ça, mais la tendance, l'aorte qui a été transplantée, à se dilater à nouveau et à redonner un problème d'anévrisme. Donc c'est une technique qui marche. On appelle ça les allogreffes. On les utilise toujours aujourd'hui. Mais ensuite, ont été créées des prothèses synthétiques. Alors là, au départ, les prothèses, elles tenaient pas le coup parce qu'elles étaient faites à base de toile de parachute. Elles étaient cousues un peu de façon artisanale. Et puis les prothèses se sont améliorées. Elles sont maintenant en Dacron ou en Gore-Tex, un petit peu comme les
ski.
Comme les couvertures de ski. Et donc, on a maintenant un arsenal de prothèses synthétiques qui fonctionnent bien, du moins dans des positions où on a affaire à des gros tuyaux, c'est-à-dire des diamètres de 2 cm, des diamètres aortiques de 2 cm. Pour ce qui est des membres inférieurs, quand on a...
Donc, quand vous remplacez comme ça, vous faites une greffe avec une prothèse, on va dire aujourd'hui, peut-être plus facilement qu'avec un prélèvement d'allogreffe, vous avez une distance limite où vous pouvez remplacer toute l'aorte, remonter jusqu'à... Puisque vous êtes chirurgien thoracique aussi, vous remontez jusqu'à l'aorte thoracique.
On peut remplacer
thoracique.
Toute l'aorte jusqu'à l'aorte thoracique. On appelle ça un remplacement thoraco-abdominal. Pour ce faire, on est obligé d'arrêter le cœur et d'utiliser des techniques extracorporelles, donc des techniques de CEC.
D'une circulation. Le sang continue à circuler, mais court-circuite le cœur.
Court-circuite le cœur. Donc on peut faire des remplacements courts et des remplacements beaucoup plus longs.
Donc, nous parlions des carotides, et le fait de clamper une carotide, c'est-à-dire le fait que le sang ne va pas arriver au cerveau pendant les 20 minutes où vous travaillez sur la carotide, à peu près, est-ce que et il peut être lésé pendant ce temps-là, ou il va y avoir des suppléances?
Tout à fait. Alors, normalement, il y a la suppléance par la carotide contralatérale, la carotide qui est de l'autre côté. La nature a bien fait les choses.
Ça se croise.
Voilà, il y a une sorte, il y a un polygone.
Complètement.
On a une dépanneuse, en fait.
Voilà.
Quand on a une carotide atteinte, on a la dépanneuse qui fonctionne normalement. Mais malgré tout, il y a des accidents vasculaires cérébraux. Ça veut dire que de temps en temps, la dépanneuse est en panne. Alors, que faire quand la dépanneuse est en panne? On peut, alors effectivement, se dire on va faire un temps d'ischémie assez court et travailler assez vite, mais on peut éventuellement mettre un petit tuyau qui s'appelle un shunt et rétablir, court-circuiter la zone qu'on est en train d'opérer et donc exposer uniquement une ischémie de 2 minutes, le temps de mise en place du shunt et travailler sur la zone. Donc on peut recourir à ces artifices. Néanmoins, le cerveau, vous le savez, a besoin des neurones ont besoin de un minimum de 3 minutes d'hypoxie pour s'il y a plus de 3 minutes d'hypoxie, on peut avoir une des catastrophes. Ce qui fait que cette chirurgie reste une chirurgie qui peut se compliquer dans très peu de cas, mais quand même n'est pas une chirurgie sans risque à 100%.
Alors les carotides, ça fait 4 mm.
Oui, 4 à 6 mm.
4 à 6 mm. Il y a deux branches. Ça se divise à peu près à la région du cou en deux branches. Et comme je le disais tout à l'heure, il faut faire attention à tout ce qui est ischémie transitoire, c'est-à-dire quelque chose de passager, mais qui peut, un trouble de la parole, vous l'avez dit, un trouble de la vision, un trouble musculaire, c'est une urgence. Et on va repérer s'il y a cette plaque d'athérome, si l'artère elle est obturée. Évidemment, il y a un certain pourcentage d'obturation. Qui va, je crois, vous avez des guides de conduite en décidant que au-delà d'un certain pourcentage d'obturation, c'est la chirurgie, mais pas tout le monde passe à la chirurgie.
Oui, disons qu'au-delà, quand la carotide a eu un symptôme, comme on l'a dit tout à l'heure, soit un trouble de l'élocution, un membre qui ne bouge pas bien ou un problème oculaire, et qu'on a un rétrécissement supérieur à 70%, on va opérer cette carotide à tous les coups. Entre 50 et 70%, on va se poser la question si on a un bénéfice par rapport au risque. C'est tout le problème du risque par rapport au bénéfice. Alors le problème actuellement, c'est de savoir... Qu'est-ce qu'on fait quand on a un rétrécissement de la carotide, mais que le patient ne se plaint de rien?
Voilà, c'est presque par hasard ou systématique.
Par hasard, voilà. On l'a dit tout à l'heure, à l'occasion d'un bilan, on découvre une sténose carotidienne avec un patient qui se porte comme un charme. Alors là, actuellement, c'est un grand débat. Faut-il opérer toutes ces carotides asymptomatiques? Faut-il n'opérer que celles qui évoluent? Actuellement, la communauté chirurgicale est partagée entre ces deux options parce que il faut opérer énormément de carotides pour avoir un bénéfice, une centaine de carotides pour avoir un bénéfice, par exemple, d'un accident vasculaire cérébral. Ce qui fait que une partie des chirurgiens se pose la question, est-ce qu'il faut toutes les opérer? Alors, on est en train de mettre en place des essais pour essayer de déterminer les groupes à risque de ces carotides asymptomatiques qui peuvent, vraiment pour lesquels il faut à tout prix opérer pour éviter un accident vasculaire cérébral.
Est-ce que l'imagerie va vous donner quelque chose de plus évolutif que d'autres, une notion?
Effectivement, peut-être l'imagerie pourra nous montrer, pour l'instant elle ne le fait pas, les plaques à risque, les plaques dont on parlait, qui sont susceptibles éventuellement d'être emboligènes, c'est-à-dire de pouvoir se séparer d'une partie du caillot et de migrer. Effectivement, l'imagerie pourrait être d'un apport pour la sélection de ce groupe à risque.
Pascal Desgranges, si les chirurgiens vasculaires sont prudents afin de poser les bonnes indications, vous avez dit tout à l'heure, parce que c'est une chirurgie qui a quand même des risques. Donc vous discutez avec vos patients pour faire part avant de la décision du risque de complications. Et de combien est-il et qu'est-ce que c'est que les complications qu'on risque?
Alors, Pour ce qui est des carotides asymptomatiques, on parle de notre patient qui a une sténose qui a été trouvée à l'examen, le risque par année de faire un accident vasculaire cérébral est entre 1 et 2%. Donc on annonce au patient qu'il a, si on le laisse comme ça, il a un risque de 2% d'avoir un accident vasculaire cérébral. À l'inverse, la chirurgie, elle est à peu près ça dépend des années, entre 0 et 0,5%. Donc, on a un bénéfice-risque en faveur de la chirurgie, mais autant faut-il avoir une technique chirurgicale quasi parfaite, proche du 0%.
Et alors, dites-moi, quand vous opérez comme ça les carotides, puisqu'on est sur ce thème-là, c'est anesthésie générale ou anesthésie loco-régionale ?
On peut faire les deux types d'anesthésie. On va dire que la position, elle est pas très très agréable pour le patient en anesthésie loco-régionale. Donc ça dépend des équipes. Nous, on est plutôt anesthésie générale, mais il n'a pas été montré dans les essais qu'il y avait un apport plus important d'un type d'anesthésie par rapport à l'autre.
Et ça vous arrive de devoir opérer les deux carotides de chaque côté ?
C'est possible de les opérer, mais pas en même temps. On va dire qu'en même temps, si on a des rétrécissements carotidiens et qu'on les traite, en même temps, on risque d'avoir un œdème cérébral important, voire même une hémorragie cérébrale. C'est-à-dire d'avoir l'inverse de ce qu'on a cherché à traiter. Donc, il ne faut pas opérer les deux carotides en même temps, mais on peut les opérer.
Vous laissez combien de temps d'écart ?
On se laisse à peu près 1 à 2 mois entre deux.
Révolution médicale, vous êtes toujours avec le professeur Pascal Desgranges, interviewé par René Friedman, en collaboration avec le quotidien du médecin, puisque chaque mardi, une série de questions de médecins sélectionnées par le journal, le quotidien du médecin, sont reprises à l'antenne et diffusées ensuite sur le site de notre partenaire. Nous parlons donc de chirurgie vasculaire. Et on a envie de dire, est-ce qu'il y aura une alternative à la thérapie endovasculaire d'aujourd'hui ? Alors peut-être d'abord parler de endovasculaire ou pas, puisque les techniques se sont développées. Il y a des ballons pour dilater, il y a des courts-circuits comme vous l'avez mentionné, il y a des endoprothèses, c'est-à-dire qu'on va mettre à l'intérieur sans enlever la partie malade, mais en la masquant par des prothèses qui viennent empêcher l'athérome de jouer. Donc, quand est-ce qu'on peut peut-on imaginer plus exactement une alternative à la thérapie endovasculaire ?
Alors, juste pour revenir, donc on a vu que la chirurgie vasculaire avait commencé par être ouverte, donc dans les années 50, et s'est développée jusqu'aux années 70-80, mais de façon ouverte. Et ensuite, des gens... Alors, pas forcément issus du monde de la chirurgie vasculaire, mais plutôt des radiologues, ont pensé piquer les artères à distance et, comme vous l'avez dit, aller traiter la lésion Donc, en utilisant ce qui était de plus naturel, c'est-à-dire la canalisation. On a parlé de cheminer dans les artères, mais bon, on appelle ça aussi naviguer dans les vaisseaux. Donc, à distance, en piquant, par exemple, l'artère fémorale.
Donc, au creux de la cuisse.
Au creux de la cuisse, l'endroit où on a tous les pouls sont... on peut palper le pouls. Hein, ça, c'est un geste que fait souvent le médecin généraliste. Eh ben, on a une rampe d'accès pour mettre à l'intérieur un petit tuyau et puis ensuite se balader, alors soit en amont, donc dans l'aorte abdominale, remonter jusqu'au cœur, on peut traiter les coronaires, on peut aussi aller vers le cerveau, traiter les carotides et puis traiter l'aorte thoracique, l'aorte abdominale ou les artères iliaques. Si on va de l'autre côté, on peut traiter les artères de jambes. Donc,
quand vous dites traiter, vous faites quoi?
Alors,
vous
traiter,
avez une sonde, vous êtes
traiter,
placé.
Alors, on passe déjà. L'idée, c'est d'atteindre la cible. Donc, on atteint la cible à l'aide de petits guides et de sondes qui sont courbées, qu'on va triturer un petit peu dans tous les sens, et on va pouvoir atteindre la cible. Une fois que la cible est atteinte et franchie à l'aide d'un guide, on va pouvoir agir sur cette cible de différentes manières. Soit on va mettre en place un petit ballon. Donc on va effectuer une dilatation. Alors avec un ballon simple, c'est pas un ballon de foot, hein, c'est une sorte de ballon comme un ballon très effilé de rugby, mais qui est très petit, qui peut aller d'une artère de 2 mm à on peut avoir des ballons 25-30 mm. Donc on peut traiter des très petites artères comme des artères comme l'aorte assez large. Ensuite, on peut amener des ressorts au niveau des zones qui sont rétrécies, donc des petits ressorts qu'on appelle des stents. Il s'agit de stents qui sont métalliques, maintenant qui sont dans un alliage qui s'appelle nitinol. Donc, on peut les amener au niveau des lésions.
Donc, ça va maintenir l'artère ouverte, quoi.
Comme une sorte de tuteur.
Voilà.
Parce qu'on s'était aperçu que après dilatation, les artères avaient une tendance à se refermer. Donc, dans les années 80, ont été inventés un tuteur sous forme de petits ressorts. Alors, au départ, il n'y avait qu'un seul type de stent, puis maintenant, il y en a une ribambelle. Et chaque territoire vasculaire a son stent particulier qui répond aux contraintes de l'endroit. Après, ça s'est encore raffiné, c'est que sur ces stents, on peut maintenant mettre en place des molécules qui sont actives. Donc les stents sont remplis de...
Actives, c'est-à-dire ?
Alors, actives, parce que un des problèmes du stent, c'est que il y a des problèmes de resténose. C'est-à-dire, vous dilatez une artère, on rouvre cette artère, et puis malheureusement, à travers les mailles du stent, réapparaissent la maladie athéromateuse. Pourquoi ? Parce que le patient vieillit, le patient continue parfois son tabagisme, et ça c'est un facteur de resténose. Donc on est obligé de recommencer, soit de remettre un stent, de dilater à nouveau.
Dites-moi, vous êtes très anti-tabac ?
Plutôt, oui.
Vous pouvez le répéter pour que...
Je suis définitivement anti-tabac.
Vous voyez les conséquences concrètement tous les jours, quoi.
Oui, dont on voit effectivement les conséquences tous les jours. Pratiquement tous nos patients ont fumé ou continuent de fumer, malheureusement.
Nous félicitons ceux qui ont réussi à s'arrêter, quoi, en amour.
Oui, on félicite ceux qui ont réussi à s'arrêter, on les encourage à continuer. Parce qu'il y a malheureusement des rechutes.
Bien sûr.
Mais c'est un combat quotidien contre le tabac.
L'évolution de cette prise en charge, va plutôt vers la chirurgie ambulatoire.
Alors, effectivement, la chirurgie ambulatoire est un traitement. Fait partie de l'arsenal du traitement pour ce qui est des traitements des artères des membres inférieurs. Donc, on parle des artères sous l'aine, la fémorale, poplité, les artères jambières. On va de plus en plus vers cette chirurgie ambulatoire. Alors, la chirurgie ambulatoire consiste à traiter le patient dans une journée, c'est-à-dire on le voit arriver le matin, on l'opère, on le laisse 2 à 4 heures se reposer et ensuite il part. Alors pourquoi on peut maintenant prétendre à traiter de plus en plus de lésions en ambulatoire? C'est qu'on a diminué la taille du matériel. On a la possibilité d'utiliser du matériel de plus en plus petit, ce qui fait qu'au niveau des points d'introduction, on fait de moins en moins d'hématomes. Il est possible ensuite de fermer à l'aide d'un petit bouchon tous les points d'introduction, Et puis on a, on va dire, une sensibilisation de l'environnement médical et paramédical. Les médecins traitants sont de plus en plus au courant, les patients sont de plus en plus au courant, les infirmières. Parce que l'ambulatoire, ça nécessite certaines contraintes. Il ne faut pas quelqu'un de socialement défavorisé. Il ne faut pas quelqu'un de seul, par exemple. Quelqu'un,
bien donc, sûr.
Il faut à tout prix que la personne revienne avec un compagnon qui puisse
qu'il
alerter,
qui soit accompagné,
qui ait été informé.
Mais c'est quand même un développement important.
Tout à fait. C'est un développement très important. Il faut néanmoins rester lucide. Tout ne pourra pas être fait en ambulatoire. Il reste quand même à démontrer un certain niveau de preuve. Donc il nous reste encore à démontrer les preuves, notamment économiques, parce que ça met quand même en jeu pas mal d'acteurs de la santé. Et puis en termes juridiques,
de responsabilité.
Ça n'a pas tout à fait encore été bien envisagé. Néanmoins, je pense que c'est à l'avenir, on va faire de plus en plus de patients dans ce mode ambulatoire.
France Culture, Révolution médicale, René Friedman.
Avant d'aborder avec vous, Pascal Desgranges, le centre d'urgence des maladies aortiques, qui, je trouve, est une vraie réussite, j'aimerais savoir si dans le futur, vous pensez qu'on va pouvoir stimuler la formation des vaisseaux, je veux dire jouer sur ce qu'on appelle l'angiogénèse, pour essayer de développer des circulations collatérales de sécurité pour les organes. Et d'autre part, est-ce que vous pensez que la pose de cellules souches en intracoronarienne, par exemple, ou dans les d'autres artères malades, pour refaire une intima, c'est-à-dire l'intérieur de l'artère elle-même plus saine, et éviter la création de plaques d'athérome, est quelque chose qui pourra se faire ou qui est en train déjà d'être recherché.
Alors, pour répondre à votre première question, effectivement, stimuler les néo-vaisseaux, ça c'est certainement une voie d'avenir. D'ailleurs, quand on voit un patient pour la première fois qui a des problèmes, on a parlé tout à l'heure de la claudication lors de la marche, la crampe lors de la marche, on lui demande paradoxalement de continuer à marcher dans un premier temps tout en réglant ses facteurs de risque, en lui diminuant le tabagisme ou en lui arrêtant, et en lui disant au plus vous marcherez, vous allez stimuler cette angiogénèse naturelle.
De nouvelles voies.
Le fameux dépannage, créer des dépannages, mais qui ne vont pas se créer du jour au lendemain, mais qui nécessitent une hygiène de vie pour que ça se crée. Malheureusement, il y a parfois des gens qui ont beau s'arrêter de fumer, corriger leurs facteurs de risque, qui ont toujours cette crampe qui survient parce que la néo-angiogénèse se fait mal. Donc, une des voies d'avenir, c'est effectivement d'injecter des molécules qui favorisent la formation de ces micro-vaisseaux. Alors, il y a les facteurs de croissance qui ont déjà été testés avec peu de succès, on va dire. Mais il y a des nouveaux facteurs de croissance et nous-mêmes, nous allons démarrer un essai avec des plasmides et un facteur de croissance angiogène. Nous allons démarrer prochainement un essai européen et nous faisons partie de cette étude. Donc, si vous m'invitez dans un ou deux ans,
je vous dirai un peu les
résultats que nous avons obtenus. Après, sur les cellules souches, merci, dans les coronaires, effectivement, ça paraît intéressant de vouloir redonner un peu la virginité d'une artère en lui la co-incubant avec des cellules souches. Sur le papier, c'est possible. Après, en réalité, c'est peut-être un peu plus compliqué à réaliser, car la partie toute médiale de, je parlais de l'intima, c'est la couche interne de l'artère. Elle est recouverte d'un tissu qui s'appelle endothélium, et c'est ça qui entraîne la non-coagulation du sang, et ce sont des cellules qui sont très complexes. L'endothélium humain est très très complexe, et arriver à recréer l'endothélium humain à partir de cellules souches, ça pourrait être intéressant, mais pour l'instant on n'est pas encore arrivé.
Il y a des essais qui se font chez
je ne suis pas au courant de cette forme, mais que des cellules souches se transforment en endothélium, oui. Ça a déjà été testé.
Alors, venons-en maintenant, Pascal Desgranges, au centre de prise en charge des complications de l'aorte. Vous avez été un de ceux qui a initié, enfin le service a initié cette prise en charge 24 heures sur 24, la possibilité donc d'arriver en urgence et de faire une prise en charge pluridisciplinaire.
Oui. Alors l'idée c'est que c'est d'accueillir les syndromes aortiques. Alors qu'est-ce qu'il s'agit, les aortes, on en a parlé tout à l'heure, il peut y avoir des anévrismes donc qui sont susceptibles de se rompre, mais il y a d'autres maladies comme une maladie qui s'appelle la dissection aortique.
Alors c'est quoi la dissection aortique?
C'est, imaginons un patient qui a une hypertension qui est mal soignée et les canalisations les grosses canalisations qui sont l'aorte sont soumises donc à une hypertension et l'aorte va se fissurer en deux. Au maximum, ça va entraîner une rupture aortique et au minimum, ça va entraîner l'apparition de deux chenaux au niveau de l'aorte et donc un élargissement progressif de l'aorte qui va entraîner la rupture. Ça peut donner des syndromes douloureux très sévères et ce sont des patients donc qui nous sont adressés en urgence. Alors ça peut être aussi des formes frontières avec la cardiologie. C'est pour ça qu'il faut des équipes qui soient à la fois qui aient un plateau de radiologie interventionnelle, donc un plateau pour pouvoir faire des scanners, des IRM en urgence. Il faut des chirurgiens cardiaques, puisque parfois ça peut être des formes frontières avec les problèmes cardiaques. Il faut des chirurgiens vasculaires. Il faut des cardiologues pour prendre en charge certains infarctus. Et il faut des anesthésistes réanimateurs. Donc sur l'Île-de-France, il n'y a pas beaucoup de structures qui sont capables d'avoir autant de spécialités.
Donc la vôtre est reconnue.
Et la nôtre est reconnue.
Il y a Pompidou.
Alors,
aussi.
Pour être tout à fait honnête, les grands initiateurs de ce genre de, oui, de plateforme ont été Pompidou en 2009. Et cette structure a montré toute son efficacité. On va dire qu'en gros, l'ouest de Paris est plutôt dirigé vers Pompidou.
Pompidolien.
Et l'est de Paris et le Grand Est est plutôt dirigé sur notre hôpital.
À Créteil.
Alors nous avons mis en place un numéro de téléphone unique. Nous avons mis plutôt un
lien avec les SAMU, je suppose.
Voilà.
Converger. En plus, Créteil, c'était l'endroit du SAMU quand
c'est
même.
C'est un endroit historique du SAMU.
Où a été créée l'idée des SAMU par le professeur Huguenard.
Monsieur Huguenard, oui, exactement. Donc, on a une histoire qui fait que les SAMU de l'Est ont tendance à arriver sur Créteil. Donc on a un réanimateur qui va ensuite dispatcher les patients. Il faut dire que on assiste à un engagement de pas mal d'acteurs autour du patient, alors qui est étiqueté comme ayant un problème aortique, mais effectivement, on l'a dit, il y a des formes frontières. Si ce n'est pas un problème aortique, les patients vont être bien entendu traités par d'autres collègues qui sont chirurgiens viscéraux ou autres médecins.
Pascal Desgranges, vous-même, dans votre équipe, avec vos collaborateurs, vous êtes plutôt centré sur le traitement endoprothèse. Expliquez-nous un petit peu, enfin endovasculaire.
Endovasculaire, oui, ouais. C'est un peu notre marque de fabrique. C'est-à-dire que... Donc on l'a dit historiquement, la chirurgie vasculaire était plutôt une chirurgie ouverte. Et c'est vrai que philosophiquement, ça y a un petit problème. Pour arriver à toucher les vaisseaux, la nature ayant en général caché les vaisseaux à l'intérieur du corps humain, il fallait
protéger
des coups. Donc il fallait faire de larges voies d'abord pour accéder à ces vaisseaux pour pouvoir les traiter. Et donc l'endovasculaire nous est apparu dès les années 80 comme étant intéressante puisque on n'a pas besoin d'ouvrir largement les patients pour arriver à les traiter puisqu'il suffit de trouver une plateforme où on peut s'introduire en général la fémorale et donc avoir des incisions minimalement invasives et de ne pas souffrir après en post-opératoire donc du fait de la grandeur de l'incision qui pouvait donc chez les patients qui sont quand même très âgés et assez atteints et ont des problèmes d'autres de comorbidité, donc ces techniques mini-invasives nous sont apparues comme intéressantes. Donc on va dire depuis les années 80, c'est mon ancien patron, le professeur Beckmann, qui avait pris le tournant et moi j'ai pris la suite. Et on est donc maintenant à 70-80% pour ce qui est de la chirurgie aortique à opérer avec des techniques minimalement invasives, avec des mini-incisions au niveau des fémorales, et à mettre en place des endoprothèses.
Vous utilisez des robots ?
Alors les robots, nous avons été, nous avons utilisé le robot pour la première fois dans les années 2000 en chirurgie ouverte. Ça n'a pas été une expérience en vasculaire qui était assez concluante. Nous avons essayé il y a 1 ou 2 ans le robot endovasculaire. Pour l'instant, on va dire que la robotique, ça nous intéresse, mais on peut pas dire que c'est une. Il manque une révolution encore au niveau de la robotique. Il faut savoir que dans l'industrie, les robots existent depuis les années 50. En chirurgie, c'est la fin des années 90. Et pour ce qui est des robots endovasculaires qui naviguent dans les vaisseaux, c'est fin des années 2010. Mmh. Donc on est au tout début de la robotique. On va dire que ce sont des machines.
Il y a tout un tas de robots dans le système intestinal, là, je veux dire, qui sont à l'intérieur.
Et des capsules. Effectivement, ouais. C'est une chirurgie. Enfin, je pense que on est au tout début. Ce sont encore des machines qui sont très coûteuses et le bénéfice-risque pour le patient, on va dire, n'est pas en faveur du patient. Ce qui est. Mais on n'est pas à l'abri d'une révolution, technologique. Mm-hmm. Et je pense que d'ici quelques années, j'aurai une position un peu différente sur la robotique.
Quel est un des souvenirs formidables que vous avez de votre métier ?
Les souvenirs formidables, c'est là vous me prenez.
Bah oui, c'est toujours comme ça.
Mais... À brûle pour point. C'est des petites choses. C'est des patients qui vous regardent et qui vous disent vous m'avez sauvé. Et je pense que c'est le sourire de certains patients. Je vais pas en mettre un parmi d'autres. C'est par exemple hier à ma consultation, voilà. J'ai eu deux patients qui étaient vraiment très contents de moi parce que un patient m'a peint un tableau d'un petit monstre
rouge,
oui, tout rouge, plein de sang.
Du sang.
Donc il m'a dit que c'était moi avec des dents acérées. Et puis un patient portugais m'a offert une bouteille de Porto. Donc voilà.
C'est du sang,
c'est du sang un peu plus vieilli, du sang de la vigne. Mais c'est toute la consultation que j'ai eue hier, par exemple. C'est le fait que ça avait mal commencé avec deux patients qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas arrêté de fumer, mais la fin de ma consultation, des patients m'ont dit qu'ils avaient arrêté de fumer, que ça avait été dur et ça. Ça, c'est ça, les satisfactions. C'est quand on a l'impression d'avoir un peu accompagné, sans avoir la prétention d'améliorer complètement, mais d'avoir un peu changé le cours de la vie des patients et de leur avoir redonné un petit peu un espace un peu plus lointain que ce qu'ils
Bien
avaient
sûr.
Au début.
Une bonne action, on va dire, médicale, ouais. J'entends. Mais vous avez signalé tout à l'heure, et c'est peut-être un message que je voudrais faire passer, sur les signes révélateurs qui doivent faire consulter. On a évoqué donc cette crampe à l'effort, on est dans le cadre de personnes relativement âgées, qui à l'effort, donc, vont avoir des douleurs pour vérifier s'il n'y a pas des obstructions des vaisseaux, particulièrement artériels. On a parlé des difficultés d'élocution brutales d'un seul coup, de celle de la vision ou du musculaire, d'une perte de la force musculaire. Vous n'avez pas dit, par contre, pour l'anévrisme de l'aorte qui menace donc de dissection, qu'est-ce qui va amener à la consultation ?
Eh bien, je vous en ai pas parlé parce que le plus souvent, c'est asymptomatique. Et c'est une maladie.
Oui, mais le patient que vous avez opéré ou ceux que vous opérez, c'est arrivé là?
Ils peuvent avoir des douleurs, mais c'est pas le mode de présentation le plus fréquent. Le mode de présentation le plus fréquent, c'est en fait, ce sont des patients qui ont eu des douleurs, de vagues douleurs abdominales ou des douleurs dans le dos qui ont conduit à faire une échographie à la recherche d'un problème vésiculaire ou urinaire. Et en fait, lors de cette échographie qui était faite pour autre chose, le praticien va souvent faire un tour du côté de l'aorte, dit attention monsieur, vous avez une aorte qui est un peu grosse, il faudrait
c'était le souvent ou le toujours, parce que la petite expérience que j'ai dans ce domaine, pour en avoir fait quelques mois, c'est que les douleurs souvent induisent sur d'autres diagnostics. On ne pense pas forcément à l'anévrisme ou à une dissection de l'aorte. Donc c'est vrai que quand on fait une imagerie, il faut penser et regarder.
Exactement.
C'est un point extrêmement important. Pour terminer cette émission, j'aimerais que vous nous disiez, Pascal Desgranges, la prévention que vous voudriez voir exercée, quels sont les messages que vous voulez faire passer pour que les hommes et les femmes de notre pays et d'alentour ne soient pas victimes de ces complications vasculaires.
Alors sans aller être péremptoire, mais effectivement notre facteur de risque numéro un chirurgien vasculaire, c'est le tabagisme.
C'est clair.
Donc on va dire que maintenant on a un petit peu on a des exemples dans le monde. Hein, je crois que le pays qui est arrivé à s'extirper du tabagisme, c'est l'Australie, qu'on cite souvent.
Mais plutôt que de dire que le tabac tue, on devrait dire le tabac crée des anévrismes de la horte, enfin, alors, un peu plus concret, quoi.
Ceci dit, quand on regarde les paquets de tabac, effectivement, il y a quand même des photos qui sont assez, éloquentes, et pour moi, ces photos sont assez effrayantes. Effectivement, ça, c'est le combattant, enfin, c'est ce qu'on combat au quotidien. Alors peut-être il faudrait encore plus d'éducation, car on a un phénomène qui arrive, qui est insidieux, c'est le tabagisme chez les jeunes femmes, qui est en augmentation.
Et même le tabagisme passif peut être responsable.
Et le tabagisme passif, ça y est, ça a été prouvé.
Le petit copain qui fume et on aspire la cigarette.
Ça a été prouvé dans une moindre mesure que le tabagisme actif, mais ça a été prouvé que le tabagisme passif pouvait entraîner effectivement des désordres cardiovasculaires.
Autre prévention.
C'est le diabète aussi, donc dans notre...
Oui, parce que beaucoup de complications du diabète vont se porter sur les petites artères.
Exactement. Donc le diabète est un facteur de risque important au niveau de l'artérite des membres inférieurs, pas trop au niveau des anévrites de la aorte abdominale, mais au niveau de l'artérite des membres inférieurs, avec les diabétiques paient un tribut assez cher au diabète, notamment en termes d'amputation. En France, on réalise des milliers d'amputations par an, et le diabète est pourvoyeur malheureusement d'amputations. Le diabète, il s'agit surtout du diabète de type 2. Hein, c'est le diabète, lié à l'obésité, donc un peu la maladie des temps modernes. Donc le deuxième message, ça serait l'activité physique et le dépistage du diabète, le traitement du diabète.
Mais quand on dit l'activité physique concrètement, ça veut dire quoi? Une demi-heure par jour?
En fait, il a été montré même à peu près une demi-heure, 20 minutes à une demi-heure par jour d'activité pure peut permettre de diminuer les risques au niveau vasculaire. On a longtemps dit qu'il fallait faire 2 heures de marche par jour, mais les autorités compétentes puis les publications ont montré que il fallait essayer de marcher plutôt des petites marches de 20 minutes par jour. Si on pouvait le faire 2 ou 3 fois, c'est mieux, mais d'avoir au moins 20 minutes à 30 minutes d'activité était salutaire pour la santé.
Et puis éviter le fameux cholestérol LDL.
Alors le fameux cholestérol LDL, justement, on le diminue avec l'activité physique. L'activité physique est pourvoyeuse de bon cholestérol HDL. Tout est lié.
Donc on a une prévention de cette complication qui survient surtout chez la personne plutôt âgée, mûre ou âgée. Est-ce que vous opérez parfois des enfants ou des jeunes, quoi, c'est-à-dire sur des maladies artérielles?
Oui. Alors sur les très jeunes, on n'opère pas c'est rare d'avoir des patients de moins de 15 ans en dehors des traumas ou des plaies.
Il n'y a pas des maladies génétiques qui peuvent toucher les vaisseaux.
On a quelques maladies génétiques qui peuvent toucher les vaisseaux. On a une frange de population qui a des artères malheureusement qui sont fatiguées à cause du sport. Les très gros sportifs ont des pathologies artérielles.
Bon, alors décidément, trop de sport nuit, pas assez nuit aussi. Voilà, cette émission en compagnie de Pascal Desgranges a été préparée avec la collaboration de Catherine Denet, réalisée par Dany Journeau, avec Pierre Monsigny à la prise de son. Vous venez d'écouter Révolution médicale, une émission de René Friedman, en collaboration avec le Quotidien du médecin. Retrouvez les réponses aux questions posées par les médecins du Quotidien du médecin sur le site lequotidiendumedecin.fr. Mais vous pouvez aussi réécouter cette émission sur le tout nouveau site internet de France Culture, franceculture.fr, et sur le site de notre partenaire, lequotidiendumedecin.fr. Demain, comme tous les jours à 16h, vous avez rendez-vous avec Culture Science, vous allez retrouver Planète Terre de Sylvain Kahn, et avec, tenez-vous bien au programme, les identités collectives et altérités, la fabrique des imaginaires. Mais je ne voudrais pas vous quitter sans vous dire qu'à la Sorbonne, ce samedi, de 10h à 18h, vous avez entrée libre sur inscription. Toute la clique de la science à France Culture sera là, particulièrement la médecine à 14h, mais les autres aussi le matin et l'après-midi. La médecine pour thème, violence, médecine et terrorisme, qui sera diffusée le mardi 16.